Bonsoir, province du Sud Kivu, 4 morts et 1 blessé, c'est le bilan de l'effondrement d'un immeuble abritant une école privée. Le drame s'est produit jeudi 10 août 2023 dans la commune de Baguera. Selon le bourgmestre de Baguera, Patience Bengeya, le non-respect des normes de construction est à la base de ce drame. Depuis quelque temps, la ville de Bukavu est régulièrement victime de sinistres récurrents, notamment des incendies, des glissements des terrains et des inondations. Conséquence, plusieurs centaines de familles se retrouvent dans la rue. Qu'est-ce qui pourrait expliquer tous ces sinistres récurrents dans la province du Sud Kivu et particulièrement dans la ville de Bukavu? Nous en parlons ce soir avec Jérémy Bassimane, ministre provincial de l'urbanisme, habitat et affaires foncières. Jérémy Bassimane, bonsoir.
Bonsoir, très chers journalistes.
Professeur Liévin Tchiraluiroi, voilà, architecte urbaniste, il est docteur en architecture de l'Université libre de Bruxelles en Belgique, professeur d'architecture et histoire de l'architecture à l'Institut supérieur d'architecture et urbanisme de Kinshasa et école d'architecture, faculté polytechnique de l'Université catholique de Bukavu. Professeur Liévin, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Moïse Tchiza Tchishugi, qui va nous rejoindre dans un tout petit moment. Il est chargé des relations publiques du Corps national des sapeurs-pompiers. Comme je l'ai dit, il va nous rejoindre dans un tout petit moment à Bukavu, Sud Kivu. Vous nous suivez sous la 95.3. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net ou sur Canal+, channel 572. Vous avez aussi la possibilité de nous suivre sur l'ISTV, canal 867. En direct sur la page Facebook de Radio Okapi. Aussi, là, vous nous suivez en live. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, l'immeuble scolaire de l'Institut La Merveille Omega qui s'est effondré dans la mi-journée de jeudi 10 août dans la commune de Baguera a fait 4 morts et 1 blessé. Bilan définitif établi par le bourgmestre de cette municipalité, Monsieur Patience Bengeya, assure que toutes les autres personnes que l'on prétendait mortes ou disparues sont réapparues et en vie. Emmanuel Elamegi et Guy Maté reviennent sur ce drame.
Bonsoir Emmanuel Elamegi.
Et bonsoir.
Comment se présente la situation sur place à Bukavu, 5 jours après l'effondrement de cette école dans la commune de Baguera?
Disons que la situation est telle que l'on tente maintenant de dégager les débris de l'immeuble de l'école qui s'était écroulé ce jour-là. Le promoteur de l'école a fait appel à ses employés et d'autres jeunes gens pour tenter de récupérer la partie qui est restée intacte et voir comment reprendre les travaux, peut-être d'une manière sérieuse cette fois-ci. Pour les victimes, dont le préfet des études, le directeur de l'école primaire et les conseillers pédagogiques qui ont été emportés, ce sont leurs familles biologiques respectives qui ont récupéré les corps sur autorisation du procureur pour inhumation.
À la survenue de ce sinistre, beaucoup de bilans ont été entendus avant de caler finalement sur le dernier bilan de 4 morts. Y a-t-il eu du nouveau à ce sujet ?
Bon, disons que le bilan n'a pas évolué comme tel. Le bourgmestre de la commune urbaine de Baguera nous a rassuré que le bilan est resté celui de ce jour-là, soit 4 morts sur place et 1 blessé grave. Les autres maçons que l'on croyait morts ce jour-là ou portés disparus le jour de l'incident sont réapparus tous vivants quelques heures plus tard. Ils ont témoigné que lorsqu'ils travaillaient, ils ont senti le mouvement de l'immeuble et ils se sont sauvés et se sont cachés un peu plus loin, laissant le bâtiment s'écrouler avec les autres qui étaient dedans. Ainsi, dans la panique, les voisins avaient cru que ces maçons étaient encore dans les décombres alors qu'ils s'étaient sauvés.
Comment expliquer notamment cet effondrement?
Disons que tous les témoins attribuent ce drame à un défaut de construction. Ce qui est devenu d'ailleurs une habitude ici dans la ville de Bukavu, la plupart des immeubles sont construits vaille que vaille. Il se peut que ce drame est arrivé au moment où l'on était en train de creuser la fosse septique à l'intérieur même de l'immeuble, ce qui est le cas souvent ici dans la ville de Bukavu, ce qui a affaibli une colonne de soutien du mur qui s'est affaissée entraînant directement tout l'immeuble.
À ce unième sinistre au sud Kivu et à Bukavu, quelle est la réponse des autorités? Et comment pense-t-elle vaincre une fois pour toutes ces sinistres récurrents au sud Kivu?
À cette question, j'estime que la réponse peut venir de l'un de vos invités dans cette émission, le porte-parole du gouvernement provincial. S'il est là, il est mieux placé pour ça. C'est récurrent dans la ville de Bukavu, des incendies, c'est presque chaque jour, des effondrements, des maisons, des éboulements de terre et bien d'autres encore. La responsabilité est partagée entre l'autorité et la population. La population elle-même qui ne sait pas prendre des dispositions pour sa propre vie, pour la vie de ses enfants et celle de ses voisins.
Emmanuel Elamegi, je vous remercie.
Vous avez sûrement reconnu la voix de Dona Madimba et non Guy Maté. Merci Emmanuel Elamegi. Jérémy Bassimane, ministre provincial de l'urbanisme, habitat et affaires foncières du Sud Kivu. De plus en plus, on parle des effondrements dans la ville de Bukavu. Chaque semaine, il y a au moins un effondrement dans cette ville. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela?
Merci beaucoup, très cher journaliste. Je salue encore une fois tous les auditeurs de la Radio Capi. Et avant de répondre à cette question, je dois encore une fois vous rassurer que ce phénomène ou cette situation ne date pas d'aujourd'hui, parce qu'il y a certaines personnes qui sont en train de croire que c'est une situation qu'on vit depuis que le gouvernement en place est en fonction. Non, je dois dire non d'abord parce que cette situation, nous l'avons même rencontrée. Je peux citer quelques cas depuis que j'étais dans cette ville de Bukavu. Nous connaissons les temps passés, par exemple à l'époque du gouverneur Kishambo, nous avons connu des cas d'incendie, nous avons connu des cas d'écroulement de maisons, même à l'époque du gouverneur Nyamugabo et même avant ça. Donc c'est une situation que nous tous nous déplorons. Et d'abord, ça c'est une précision que je voulais donner. Mais je dois d'abord partir de ce qui s'est passé à Bagira. Moi personnellement, j'étais absent dans la ville, j'étais en mission à Uvira. Et dès mon retour, j'ai rencontré qu'il y a nos services qui ont déjà mené des enquêtes et un rapport en train d'être élaboré et déposé auprès de l'autorité provinciale. Mais anticipativement, qu'est-ce qui a été rencontré? La maison était là, mais il y a d'autres constructions qui étaient en train de se faire à l'intérieur, où on était en train de terrasser, et ça bougeait, selon les informations qui ont été données par les services, ça bougeait les piliers ou les pylônes qui soutenaient
l'emploi. On vous écoute, monsieur le ministre.
Oui, je suis en train de dire que avec cet terrassement qui se faisait en aval de cet immeuble, ça bougeait les pylônes.
Je crois qu'on a perdu le ministre. La réalisation va essayer de le rappeler, sûrement un problème des réseaux téléphoniques. Moïse Chiza nous a rejoint dans ce studio. Comme je l'ai dit à l'introduction, il est chargé de relations publiques du Corps national des sapeurs-pompiers. Bonsoir, monsieur Chiza.
Bonsoir, madame.
Alors, ce soir, le débat tourne autour de ces sinistres qui sont devenus... qu'on rencontre très souvent ces derniers temps dans la ville de Bukavu, incendies, inondations, effondrements. Alors, les gens se posent beaucoup de questions. Chaque semaine, il y a un incident dans la ville de Bukavu. Qu'est-ce qui se passe à Bukavu?
Je vais commencer d'abord par présenter mes excuses pour ces petits retards que nous avons connus en cours de route. Je veux aussi saluer la présence de son Excellence M. Jérémy Bassimane, qui est en train de nous écouter tout à l'heure. Mais ce qui est là, c'est que le cas qui se passe actuellement à Bukavu, c'est un cas très délicat et compliqué. Mais pour y arriver, je vais présenter quelques éléments des statistiques que j'ai sur moi. Je vais commencer par présenter que la ville de Bukavu, depuis 1935, la ville de Bukavu était occupée par 2050 habitants. De 1935, c'était 2050 habitants. À l'époque, nous étions encore dans la période de la colonisation. Et les Blancs, pour essayer un peu d'équilibrer la démographie de la ville, ils avaient créé les centres extra-coutumiers. Dont le premier centre à Bukavu, c'était le centre extra-coutumier de Kadutu. Ce centre a connu une forte densité de la population. Le blanc a ajouté notre centre, c'était le centre de Bagira. J'ai calculé depuis 1935 jusqu'à 1958, la population de la ville de Bukavu a accru de 2050 habitants jusqu'à 53 833 habitants. Et si nous calculons les dernières statistiques que j'ai, en 2021, la population de Bukavu était estimée à plus de 1 137 000 habitants. Il y a toute une forte densité de la population. Et ça, ça fait ce qu'une population dont au départ était de 2 000, nous sommes à plus de 1 million. C'est que comprenez qu'il y aura problème de cohabitation. Et à cet effet, il y a maintenant problème de partage de l'espace.
Il n'y a pas assez d'espace pour tout le monde.
Donc, quand il n'y a pas vraiment assez d'espace,
les gens construisent anarchiquement.
On va commencer à vendre de petits morceaux de terre à des gens. C'est qui va commencer maintenant à entasser les maisons les unes contre les autres. Et qui, malheureusement, il y aura des maisons qui seront construites en bois. Or, le bois, ça conduit l'incendie.
Oui, mais comment le bois va conduire à l'incendie? C'est qu'il y a des raccordements frauduleux, peut-être des câbles de la SNEL.
À cet effet, les causes de l'incendie sont multiples. Comme le prédécesseur, ils ont déjà dit ça, les causes d'incendie sont multiples. Il y a d'abord cette construction anarchique. La construction anarchique est cause parce qu'elle facilite la propagation des incendies. Deuxième cause, il y a vraiment le raccordement des courants électriques. Quand vous regardez le raccordement des courants électriques, il y a des mauvaises installations dans des maisons. Et ces mauvaises installations conduisent aussi à plusieurs incendies. Actuellement, il y a aussi la mauvaise utilisation des panneaux solaires. Au-delà du courant électrique, il y a aussi la mauvaise utilisation des panneaux solaires. Donc, quand on utilise mal, ça va créer l'incendie. Également, il y a aussi l'imprudence. L'imprudence des parents dans le ménage. Des parents qui peuvent laisser l'utilisation de feu par les enfants. Et on ne sait pas, l'enfant est incapable de contenir. Quand il y a les cas d'incendie, pour lui, il peut même se jeter dans le feu ou soit il fuit.
Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la cause première, ce sont les constructions anarchiques?
Il y a plusieurs causes que nous sommes en train de dire.
Les constructions conduisent à la propagation de l'incendie, comme vous l'avez dit vous-même. Ça veut dire que si les maisons étaient bien construites à Bukavu, ça nous éviterait tout ce que nous déplorons aujourd'hui.
Loin de ça, madame, parce que même en présence d'une bonne construction, il y a aussi le courant électrique qui crée l'incendie à l'intérieur d'une maison bien construite. Donc, il y a plusieurs éléments qu'il faut régler pour qu'il y ait quand même la stabilité de la ville.
La réalisation me signale que le ministre est de retour. Monsieur le ministre, vous êtes là?
Je suis là, madame la journaliste.
Alors, on vous a perdu tout à l'heure. Je pense que c'est un problème des réseaux téléphoniques. Alors, on parle déjà des causes de ces sinistres récurrents dans la ville de Bukavu. Il y a notamment les constructions anarchiques qui facilitent, hein, comme l'a dit notre expert ici, la propagation de l'incendie. Il a parlé des mauvaises utilisations, hein, des panneaux solaires. Il a également parler du courant électrique. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le ministre?
Exactement ce que l'intervenant venait de dire. Bon, je n'ai pas retenu son nom, je m'excuse.
Moïse Tiza.
Moïse
Tiza, monsieur Tiza.
Ce qu'il venait de dire est vrai. Il a donné le détail de quelques causes qui pousse à ce qu'il y ait incendie, éboulement et autres. je confirme ce qu'il dit. Il a cité les problèmes des constructions anarchiques. C'est pris de tous. Et je l'ai dit avant, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Et derrière, c'est la lutte que nous menons chaque jour. Je vais vous montrer tout à l'heure là comment le gouverneur Tshiongwabije Kasi était contre les constructions anarchiques depuis qu'il a accédé au pouvoir en province Sud Kivu. Le gouverneur ne fait que lutter contre les constructions anarchiques. Mais je tenais à vous dire que nous avons un problème d'homme au Sud Kivu.
Votre ligne téléphonique est en train de se détériorer. Essayez de changer de position, de bouger un peu hein, pour essayer de voir si ça va s'améliorer.
Là, vous m'écoutez très bien.
Là, ça va.
Voilà. J'ai été disant que ce que tu venais de dire est vrai. Et il a donné les éléments de détails par rapport aux causes qui favorisent l'incendie, l'éboulement, l'écroulement et autres. D'abord, il a présenté le problème de démographie. Comme vous le savez, il a donné la statistique depuis que la province ou la ville de Bukavu a été conçue par les Blancs depuis l'époque coloniale. Et aujourd'hui, il y a une forte démographie. Et donc, l'espace ne contient plus le nombre de personnes, le nombre de gens qui viennent, parce qu'il y a exode rural terrible, les gens qui viennent des villages, tous veulent vivre dans la ville. Et il est vrai que c'est inspiré de tout celui qui vient, bien que le gouvernement provincial de chercher des solutions par rapport à ça, je vais vous les montrer ce que je disais. Il a parlé de la des constructions anarchiques. On ne peut pas nier ça, on connaît, ce n'est pas aujourd'hui, c'est une situation que nous avons héritée.
Et qui
mais
continue.
Les provinces, oui.
C'est quelque chose que vous dites que vous avez hérité ça, mais ça continue avec vous.
Non, c'est là que je suis en train de vouloir arriver, parce que le gouverneur Tshiongwabije Kasi, depuis qu'il a accédé au pouvoir, il ne fait que lutter contre les constructions anarchiques. Mais je dois vous assurer, madame, que nous avons un problème d'hommes. Je vais vous le démontrer. Là. Je prends par exemple au niveau de Guiamba. D'ailleurs, avant d'y arriver, le gouverneur, depuis qu'il est là, il a pris un arrêté. Le premier arrêté qu'il a pris, c'est l'arrêté portant assainissement des agglomérations urbaines et rurales dans la province du Sud Kivu. Et après là, nous avoir pris cet acte, il a annexé, il a publié les zones où les sites jugés impropres à la construction. Et il a demandé tous les cadres de base, tous les responsables des entités, le maire des villes, le bourgmestre des communes, les chefs des quartiers, de soutenir cet acte, de soutenir cette décision. On a publié, on a rendu public tous les sites jugés impropres. Voilà ce que j'ai tenté de vous dire, que nous avons un problème d'homme aussi que vous. Je me rappelle à l'époque, Madame Zita Kavungirwa, à l'époque, à son âme, elle est décédée, mais lorsqu'elle était en fonction comme maire de Bukavu, elle était partie, là j'étais derrière son parcelle, je dois vous l'avouer, on était parti démolir des maisons vers Kiyamba. Et là vous comprendrez, c'était à l'époque du gouverneur Kishambo. Mais après qu'on ait démoli ces maisons, on s'est retrouvé que après que ce pouvoir est passé, toutes ces personnes ont encore reconstruit des maisons sur ces sites. Le gouverneur Nyamukabo est venu. Il a démoli des maisons sur ces sites. Après lui, on a constaté que les mêmes personnes sont revenues avec des nouvelles figures, de nouvelles familles. Et le gouverneur Tshiongwabije Kasi est venu. Il a interdit toutes les constructions sur ces sites. Je vais même vous dire que un agent, un cadre de l'administration des affaires foncières a été suspendu pour avoir octroyé ou délivré des titres sur ces sites. Ça n'a pas empêché que les gens viennent. Et chaque fois, la fois passée vous avez suivi, on a démoli des maisons sur ces sites et vous avez vu des marches. Il y a les gens qui ont marché, la population de Kiyamba qui a marché, qui a barricadé la route. Voilà les problèmes qu'on nous disait, vous ne devez pas construire sur ces sites. Les gens ne veulent pas comprendre. Ou plutôt, ils prennent l'autorité comme quelqu'un qui ne veut pas ou qui ne veut pas qu'ils vivent.
Mais voilà avant de construire, ces gens doivent avoir une autorisation.
Non, madame, tous n'ont pas de permis de construire.
Donc, un matin, quelqu'un se réveille comme ça et se met à construire sans permis de construire, sans autorisation aucune.
Et voilà l'appel que nous nous cessons de formuler chaque fois à la société civile, au cadre de base, de nous alerter, parce que certaines personnes construisent le dimanche. Vous vous réveillez le matin du lundi, vous racontez la maison déjà construite. Nous essayons de démolir. Demain, le samedi, ils construisent pendant les jours fériés. C'est le grand problème que nous avons au sud de Kivu.
Est-ce que l'État est faible?
Oui.
Est-ce que l'État est faible?
L'État
pour que ces gens ne puissent pas respecter
les décisions prises. L'État n'est pas faible. Voilà pourquoi je vous dis que chaque fois nous passons aux actes, nous démolissons, vous démolissez ici, ils construisent de l'autre côté. Nous y allons encore une fois, nous démolissons, demain ils reconstruisent. Nous avons un problème de mentalité, changement de mentalité. Il n'y a pas la faiblesse de l'État, parce que si on parlait de la faiblesse, l'État ne passerait pas aux actions. Je vous donne même le cas du lycée Ouima, où on a démoli les maisons. On a même délocalisé la population. On a créé un lotissement au niveau des salons. On a distribué des parcelles à tous ces gens qui étaient vers l'Issé Ouima. Mais je dois vous dire ici, l'enquête que nous avons menée la fois passée, on a raconté que les mêmes personnes qui ont bénéficié des parcelles à Venissa Longo, ils les ont déjà vendues et d'autres sont de vouloir retourner là où l'État a interdit toute construction. Et je vous dis, il y a des cadres de base. D'ailleurs, c'est la décision du Conseil des ministres qui a dit qu'on va commencer à suspendre tout cadre de base qui n'alertera pas, qui ne donnera pas à l'autorité provinciale les informations qui se passent dans sa juridiction. Parce que l'autorité provinciale n'est pas partout. Il y a ce qui se passe en complicité avec les agents de l'État, bien sûr, ça je dois avouer, mais vous êtes suffisamment informés et je vous l'ai dit, nous sommes en train de suspendre des agents de l'État qui se donnent à de telles pratiques, qui acceptent qu'il y ait construction sur des sites impropres. Madame, si vous le permettez, je sais que d'autres vont intervenir.
Justement.
Je venais de vous parler du premier acte que le gouverneur Tiongabiche a pris dès qu'il a accédé au pouvoir. C'est l'arrêté provincial portant assainissement des agglomérations urbaines et rurales. Et dans cet arrêté, il y a toutes les dispositions prises. Il a été demandé à tous les cadres de base, tous les agents de l'État, d'observer qu'il n'y ait pas construction sur le site impropre. À part ça, madame, le gouverneur de province, en 2021, il a mis en place un comité provincial d'assainissement, que je préside d'ailleurs. Et tout celui qui est à Bukavu peut vous en dire plus. Le maire de Bukavu étant le vice-président de ce comité, nous travaillons ensemble, nous sommes en train de libérer toutes les voies obstruées par des tiers. Donc, nous sommes en train de travailler, mais le problème, et je continue à le dire, et que tous ceux qui me suivent, nous avons un problème de comportement, de mentalité de nos populations qui ne veulent pas écouter les autorités.
Et la population vous suit, M. Jérémy Bassimane, ils sont d'ailleurs nombreux à commenter déjà sur notre page Facebook. On vous garde dans l'émission, Monsieur Bassimane, excusez-moi, on va vous garder dans l'émission. Le temps de prendre le professeur Liévin Tchiralouiroa. Professeur, qu'est-ce qui pourrait expliquer selon vous ces sinistres qui sont devenus récurrents dans la province du Sud Kivu, particulièrement dans la ville de Bukavu?
Merci beaucoup, madame. Je voudrais, d'entrée de jeu, vous demander une faveur. C'est celle de me permettre de présenter mes condoléances à ces familles qui sont éprouvées, parce que la plaie est encore béante. C'est seulement le 10 de ce mois que cela s'est passé. Je présente mes sincères condoléances aux familles de Bagira et à tous ceux-là et celles qui ont été touchées par cet acte d'irresponsabilité. Bien. Pour revenir à votre question, madame, permettez-moi d'abord de placer un mot, parce que j'ai suivi monsieur le ministre provincial et j'ai l'impression qu'il cherche à se disculper, parce que on ne peut pas parler du gouverneur Tshishambo du gouverneur Nyamugabo aujourd'hui et dire que cela a commencé sous eux. La question ici, c'est celle de nous dire, bien, nous avons reçu ceci, c'est ça le passif que nous avons, dont nous avons hérité, et qu'est-ce que nous en faisons? Malheureusement, je n'ai pas entendu ça dans le discours du ministre provincial. Maintenant, pour revenir à votre question, madame, il y a lieu de dire qu'il y a un problème sérieux. Et ce problème se voit au niveau du cadre juridique et du cadre institutionnel qui sont inefficaces dans le domaine de l'urbanisme, dans le domaine de l'habitat et en général dans le domaine de la construction. Et comme vous l'avez entendu, ils ont si bien dit que les gens sont en train de construire sans permis. Vous vous imaginez que cela sorte de la bouche d'un ministre provincial en charge de l'urbanisme, qu'il connaît des gens qui construisent sans permis. C'est incroyable. Bien, ce n'est pas ça le cas. Ce n'est pas ça sur ça que nous devons nous appeler. Mais il faut dire, madame, que dans la ville de Bukavu, le fait qu'on a un problème du cadre juridique et institutionnel qui est efficace, il y a des conséquences. Et parmi ces conséquences, c'est ce que moi j'appelle l'urbanisation calquée sur le modèle des oiseaux, ici à Bukavu. Les gens construisent comme des oiseaux. Il n'y a aucun plan, il n'y a aucun lotissement, c'est comme un arbre vide. Un oiseau se présente, trouve un endroit, place son nid, l'autre vient, place son nid au-dessus, en dessous ou à côté, et la fête est là. Voilà ce que nous rencontrons dans la ville de Bukavu. Et donc, quand il n'y a pas de contrôle, quand il n'y a aucune loi qui est suivie, les permis de construire ne sont pas disponibles pour certains, vous vous imaginez à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Il n'y a que ces conséquences. Et malheureusement, c'est cette pauvre population qui en souffre, madame. Je vais m'arrêter par là. Et,
mais professeur, est-ce que la population n'est pas en partie responsable de ce qui arrive dans la ville de Bukavu? On a suivi le ministre qui a insisté sur cette question des mentalités de la population.
Je suis d'accord avec vous, madame, mais la mentalité de la population, c'est également la responsabilité des dirigeants que l'on a. C'est vrai, je dois dire ici que le marché de la construction met en présence trois personnes. On a le maître d'œuvre qui est le propriétaire, on a l'architecte qui est le maître d'ouvrage et on a finalement l'entrepreneur qui vient exécuter ses travaux. Mais est-ce que cela est respecté? Si cela a déjà été respecté, on pouvait éviter ces catastrophes que nous connaissons.
Alors, Moïtiza, comment vous réagissez hein, aux analyses du prof et même du ministre Bassimane? La population est têtue, il faut changer la mentalité ou leur mental, la mentalité de cette population. Les gens construisent anarchiquement, le prof a utilisé une expression là, les gens construisent comme des oiseaux. Alors, lorsque les décisions ne sont pas à respecter, à quoi ça tourne en fait?
Madame, je dois dire que dans les dossiers qui se passent au site Kivu, les responsabilités sont partagées. C'est partagé, j'insiste aussi sur la population, parce que on ne peut pas vouloir mal construire et puis en cas de danger, on impute ça à l'État. Ça, faut le dire.
C'est l'État qui laisse faire.
Ça, voilà. Nous devons dire à l'État et nous devons aussi renforcer le message du ministre en lui disant qu'ils doivent encore renforcer leur mécanisme de contrôle. Parce que rien n'est impossible devant l'État. Et ces problèmes peuvent être résolus. Parce que si je prends l'exemple seulement du Nord Kivu, la ville de Goma aussi a été vraiment entassée et le gouvernement a décidé d'élargir la ville. Si vous regardez aujourd'hui Mugunga, c'est un endroit qui est en train d'être aménagé et où les habitants construisent convenablement. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui étaient dans la ville et qu'on est en train d'élargir petit à petit. La ville de Bukavu aussi, on peut l'élargir. C'est pas seulement que parce qu'il y a un problème, la population ne comprend pas. La population ne peut pas avoir un gros dos devant l'État.
ne peut pas avoir un gros dos de valette. Parce qu'il y a des choses qu'on voit là-bas que l'on ne peut pas vraiment supporter. Il y a des populations, évidemment, qui se mettent en danger. Ils voient que ça, c'est le danger. Plusieurs sites impropres à la construction. Plusieurs sites impropres. Mais si vous y arrivez aujourd'hui, vous allez voir des gens qui y vivent. Tout en sachant que, tôt ou tard, cet endroit peut être un danger pour nous. Mais ils sont là. Mais moi, je dois aussi interpeller l'État ou sensibiliser l'État. Je dois sensibiliser l'État à prendre vraiment les mesures de contrôle efficaces et le peuple va comprendre ce que l'État va dire.
Alors les internautes sont très très nombreux, hein, surtout des Bukavu qui nous suivent en live sur la page Facebook de Radio Okapi. Diogène Siva qui pense qu'il n'y a pas mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais dirigeants. Que peut faire la population face à un État fort? Il se pose la question. Alors Benjamin Michiki lui pense que l'État doit renforcer son système de travail sur la construction, les constructions anarchique dans la ville de Bukavu. Pamphil Kirima, on nous écrit aussi, qui salue tout le monde. Il pense que le gouvernement ne fait pas bien son travail, le gouvernement provincial, j'imagine, qui ne fait pas bien son travail. Alors, il y a Freddy Mbilizi, depuis Ouvira, la population a tendance à boycotter les taxes ou autorisations de construction, de construire, car les services demandent beaucoup d'argent. Dans ces cas, il y a fraude. Bref, réaction.
Évidemment, tous ces problèmes sont aussi, font aussi le compte de ce que nous sommes en train de dire, parce que tous ces problèmes entrent en ligne de compte. Nous devons toujours dire, tel que nous sommes en train de le dire, il y a des avancées. Il y a des avancées. Évidemment, il y a un problème. Il y a déjà des avancées. On ne peut pas seulement dire que l'État ne fait rien. Il y a des avancées quand même. Si on peut regarder au niveau de la SNEL, actuellement dans la ville de Bukavu, la SNEL est en train d'aménager son système de distribution du courant électrique. Aujourd'hui, on est en train d'utiliser le cash power. Avec le cash power, il y a déjà beaucoup de ménages qui en utilisent et qui ne tombent plus dans les problèmes de plusieurs fils qui sillonnent aux alentours de la ville. Et nous pouvons féliciter ces avancées-là. Également sur le plan de la construction anarchique, tel que le ministre l'a dit, on suppose qu'il y a aussi des avancées qui sont en train de se faire pour que la population comprenne que on doit... D'ailleurs, ce que je veux vous dire, madame, il y a déjà un lotissement au niveau de Nyantende. Nyantende, ce n'est pas loin de la ville, et ce lotissement est là qui peut servir pour la population. Également, il y a un autre lotissement à Kachoucha. Il y a deux lotissements déjà. Donc, la population peut aller construire à deux lotissements pour ne pas se créer des problèmes qui vont apporter des dangers à la population.
Alors, on va ouvrir notre standard très rapidement pour prendre aussi ces autres auditeurs qui nous appellent. On va suivre plutôt, j'allais dire, la réaction de Gabriel Ekolanga. Ça sera pour vous, Jérémy Bassimani.
Moi, c'est Gabriel Ekolanga, depuis Bukavu au sud Kivu. Ces catastrophes naturelles dont la ville de Bukavu fait face ces derniers temps ont des causes multiformes, entre autres, l'irrespect, par exemple, des conditions urbanistiques liées aux constructions anarchiques, l'incompétence et manque de professionnalisme des autorités foncières et urbanistiques et d'aménagement du territoire au sein de la province du Sud Kivu en général et celle de la ville de Bukavu en particulier. Mais aussi, mauvais raccordement des fils électriques, l'ignorance de la population bukavienne, et conflits aussi d'ordres sociaux et en fait des raisons mystiques et surnaturelles. Ces raisons ne sont pas exhaustives, mais au moins ce sont là les principales causes de ces sinistres. Mais en dépit maintenant de ces sinistres, les autorités font comme si de rien n'était et malheureusement, elle n'envisage pas aussi des solutions palliatives. Nous voyons aussi à Bukavu des camions anti-incendie offerts d'ailleurs par certaines personnalités de bonne volonté. Nous ne savons pas à quoi ceux-ci sont utiles, car quand il y a incendie, nous ne voyons pas ces camions venir éteindre le feu.
Jérémy Bassimane, comment vous réagissez au point de vue de Gabriel Ekualaga? Soyez concis, oui. S'il vous plaît.
Merci beaucoup. Avant de répondre à l'intervention de Gabriela, permettez-moi de réagir aux interventions de ceux qui ont précédé. Surtout celui qui a parlé du gouverneur, ancien gouverneur Kishambo Nyamgabo. Je dois rectifier. Il doit savoir que je n'ai pas dit que ces phénomènes ont commencé par eux. Non. J'ai montré que ces phénomènes datent de très longtemps. Et j'ai montré ce qui s'était passé pendant leur gestion. Et on pouvait même remonter jusqu'à arriver à la période de Tshibalonza et d'autres. Donc, qu'il ne pense pas que j'ai parlé que ça a commencé par eux. Donc, c'est une situation que nous avons rencontrée, mais que nous sommes en train de combattre jour et nuit. Et voici les éléments. Et ça va raconter aussi l'intervention de Chisa, qui a reconnu avec moi qu'il y a un problème de mentalité de la population. Et donc, je peux demander aussi que vous rectifiez ce que vous avez dit. Je n'ai pas dit que la population était qui. Ça, c'est votre mot que vous avez employé. Moi, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y a un problème de mentalité des gens qui ne veulent pas comprendre.
Les gens qui ne veulent pas comprendre, ils sont têtus, monsieur le ministre. Vous êtes d'accord avec moi?
Ça, c'est vous qui le dites. Bon, merci. Oui, comprenez, madame. Je disais que le gouverneur Tiongabi Jekasi, depuis qu'il est là, retenez ce que j'ai dit. Lorsque le gouverneur des provinces publie le site impropre à la construction, et il demande à la population d'y veiller, le responsable des entités, les agents de l'État, les cadres de base, il nous demande tous d'y veiller. Mais quelqu'un vient, il construit la nuit. Le matin, on démolit sa maison. Il est mécontent parce qu'on a démoli sa maison. Demain, il revient dans une autre forme, il reconstruit. Tout celui qui m'écoute doit comprendre les problèmes que je suis en train de décrire, de démontrer. Et là, il n'y a pas faiblesse de l'État. Je dois le dire clairement. À part ça, madame, je vous donne aussi d'autres précisions. Je viens d'Ouvira dans une mission officielle. L'objet de la mission, j'étais parti vulgariser l'arrêté du gouverneur, l'arrêté provincial, c'est l'arrêté du 15 juillet 2023. Le gouverneur des provinces venait de prendre encore un autre arrêté, réglementant la vente des concessions des parcelles et des dimensions requises en province d'ici Kivu. J'ai tenu une conférence, une grande réunion ici à Bukavu, et tous les journalistes y étaient invités pour nous aider à vulgariser cet arrêté, qui nous aide à comprendre encore une fois les dimensions requises pour construire un immeuble dans la ville de Bukavu. Et de cet arrêté, je vais remettre ça même à votre radio ici à Bukavu, pour que vous nous aidiez à le vulgariser. Il est strictement interdit de délivrer un titre, ni construire un permis de construire sur un site, une parcelle qui ne réunit pas les conditions requises. Au moins, là, les gouverneurs ont réglementé, parce qu'on a constaté une boucherie foncière à grande échelle, c'est-à-dire les gens se permettent de construire même sur des dimensions de parcelles qui ne réunissent pas les conditions. 5 mètres sur 8, 10 mètres sur 10, on a dit net, on ne doit plus voir ça. Mais comprenez, madame, nous ne sommes pas partout. C'est la société civile qui doit nous aider. Ce sont les
mais vous avez des services partout, des services de journalisme partout, je pense.
Nous avons des services, mais des services aussi qu'on retrouve. Quand on dit partout, c'est-à-dire quoi? Est-ce que le service qu'on est qui fait quoi maintenant que nous parlons avec vous ici? Mais les matins peuvent se réveiller. Vous constatez qu'il y a une maison qu'on a commencé à construire à 19h et achevée à 5h du matin. Ce n'est pas le problème que nous connaissons aussi que vous. Voilà que le gouverneur vient de prendre encore une fois un acte. Et il dit qu'il n'y a plus de construction champs vêtus du sol. Donc,
merci.
On doit présenter les éléments d'études du sol avant de commencer à construire. Et tous les services ont été instruits à observer. Il y a plusieurs éléments que vous pouvez découvrir, plusieurs dispositions que vous pouvez découvrir dans cet arrêté.
Merci, à monsieur le ministre.
Laissez-moi non, vous dire un autre élément.
Soyez concis, s'il vous plaît. Hein. Vous êtes trois dans les débats, donc il faut tenir compte.
Il y a un autre élément très important. Le gouvernement provincial venait de décider sur l'élargissement ou l'extension de la ville de Bukavu. Parce que c'est à Bukavu qu'il y a ce problème. Pas seulement à Bukavu, mais c'est très plus récurrent à Bukavu. On a choisi les axes sur-après pour élargir la ville de Bukavu. L'axe Bukavu-Nyantende jusque vers Nyangezi. Nous avons l'axe Majoro-Vango vers Mugogo. L'axe Place de l'Indépendance vers Chiriri. L'axe Place de l'Indépendance vers Amsar, Mudaka, Kavumu, Katana, Kabamba et littoral du lac Kivu en passant par Birava. Voici les axes déjà décrits par le gouvernement provincial. Il reste maintenant un plan d'aménagement. Les techniciens sont en train de travailler et nous avons fait appel à tous les techniciens, tous les architectes. Celui qui a une idée, en tout cas le gouvernement provincial dit, est très prêt à recevoir tout celui qui a une idée par rapport à l'élargissement de la ville de Bukavu.
Merci, monsieur Jérémy Bassimane.
Nous ne sommeillons pas, mais on a compris que vous travaillez jour et nuit pour résoudre les problèmes des cas d'incendie, des boulements que nous connaissons.
Merci, monsieur Jérémy. Merci beaucoup. On vous garde encore dans cette émission. Je pense que vous avez réagi et répondu aussi à la préoccupation des Gaylor Kialondawa qui posait justement la question de savoir pourquoi ne pas élargir la ville à Nyatende et Kavumu. Professeur, on va prendre aussi pour vous cette autre réaction qui nous vient encore une fois de Bukavu, cette réaction de Teddy Lungé.
Je suis Augustin Tendilongue, j'appelle à Bukavu dans la province du Sud-Kivu. Ce qui explique tout ce sinistre récurrent, à mon avis, est l'exode rural causé par l'insécurité dans différents territoires de la province, qui est à la base des constructions anarchiques, des maisons qui s'érigent dans des milliers à haut risque, malheureusement, aux vies et aussi des autorités provinciales.
Professeur, réaction.
Merci madame, et merci à l'intervenant de tout à l'heure. Je crois qu'il a raison. La ville de Bukavu est saturée. C'est vrai que M. Moïse Chiza s'est hasardé à donner un chiffre d'un million 137 000 habitants dans la ville. Ce serait difficile de confirmer ce chiffre parce que le dernier recensement scientifique que nous avons connu dans le pays et principalement à Bukavu date de 1984, donc il y a presque 40 ans de cela. Ça, ce sont des chiffres approximatifs. Il se pourrait que la ville de Bukavu ait une population qui va peut-être vers les 2 millions d'habitants en ce moment où nous parlons. Alors, la population, l'exode rural, oui, mais cet exode rural doit-elle être réglé au milieu de la ville? La ville, madame, ne doit pas croître à l'intérieur d'elle-même. La ville doit s'étendre. Et je suis content d'entendre que le ministre provincial parle déjà de certains axes d'extension de la ville. Ce sont des axes qui sont connus, axe sud, axe nord, mais j'attendais plus de lui. C'était de nous dire quels sont les sites qui sont identifiés sur ces axes-là. Tantôt, M. Chiza a parlé du lotissement de Nyantende et celui du côté de Kavumu. Ces lotissements, ce sont des lotissements privés. Ça, ce sont les privés qui ont fait ces initiatives. Ce ne sont pas les initiatives du secteur public. Et donc, le secteur public devrait amener sur la table quelque chose pour montrer justement qu'il a cette envie, cette décision à pouvoir régler ce problème que l'on connaît dans la ville. Madame, à ce stade, nous étions en train de parler de l'effondrement et des effondrements des immeubles. Je me suis amusé à faire un petit calcul à partir de 2020. En 2020, on a connu l'effondrement d'un immeuble de trois niveaux à Vamaro, comme on l'appelle, qui a endommagé pratiquement six autres édifices. En 2021, on a connu sur l'avenue de l'ISGA un effondrement avec cinq morts pour un édifice qui était construit seulement six mois avant. En 2022, au mois d'avril, on a connu un effondrement d'un immeuble de deux étages au quartier Nkafu et qui a tué une fille de 14 ans. La même année, en 2022, on a connu un effondrement, c'est curieux, c'est sur l'avenue même de la résidence du gouverneur, l'effondrement d'un immeuble de six niveaux, juste non loin de l'hôpital militaire de Fac. En 2023 maintenant, nous sommes en train de parler de ce sinistre que vient de connaître la commune de Badira, avec une école qui s'est effondrée. Ça fait, madame, en trois ans seulement, cinq effondrements qu'on a connus. En moyenne, ça nous donne 1,6 immeubles qui tombent par an. Prenons deux immeubles par an. La question, c'est celle de savoir pourquoi ces immeubles tombent. Qu'est-ce qu'on fait après que ces immeubles tombent? Je voudrais ici que les responsabilités soient clairement établies. Aucune enquête n'a été publiée pour dire que l'immeuble qui est tombé, celui de six niveaux, sur l'avenue de la résidence du gouverneur, personne ne sait aujourd'hui quelles sont les conclusions de des enquêtes. La même chose pour les quatre autres que j'ai cités. Madame, je pense que je voudrais proposer quelque chose au ministre provincial en charge de l'urbanisme et de l'habitat, c'est celui de penser à très court terme à l'organisation d'une sorte de des états généraux de la construction, où il va amener les experts. Il a besoin des idées, il a besoin des experts, il a besoin non pas seulement des architectes, des ingénieurs, il a besoin des sociologues. Il nous a dit que la population ne comprend pas, que la population fait ce qu'elle veut. Il a besoin des sociologues, des anthropologues, des économistes, de tout cela qui travaille dans le domaine de la terre, ainsi de suite, qu'il amène toutes ces personnes ensemble et qu'on lui donne des idées pour que finalement on ait les actes qui vont sortir de cette grande messe des experts dans le domaine foncier, dans le domaine immobilier, dans le domaine de la construction, de l'architecture et de l'urbanisme. Une chose, madame, qu'il s'y est de préciser, avant peut-être que je ne termine mon propos, c'est que le ministre provincial devrait savoir que jusqu'à la fin de l'année 2022, l'année dernière, notre pays n'avait pas de code d'urbanisme. Le code d'urbanisme est en lecture maintenant, il n'a pas encore été publié, et ça c'est l'une des causes qui font que les agents véreux des services de l'urbanisme, de l'habitat, et même ceux du cadastre des affaires foncières, peuvent être impliqués dans pareilles choses. Madame, à mon avis, et c'est ça la proposition, c'est qu'on doit fournir un effort que le cadre juridique, que le cadre institutionnel puisse être mis à niveau, que cette grande messe des experts et de tous ceux-là qui sont concernés par la construction, par les questions du sol, par les questions de l'urbanisme et de l'habitat, puissent être amenés ensemble pour une réflexion. Ça ne coûte rien.
Merci.
D'amener les experts. Je vous en prie, madame.
Merci, professeur Liévin. Moïse Tuzan, on va prendre aussi très très rapidement cette dernière réaction qui nous vient aussi de Bukavu.
Patrice Mondera Kulimushi, j'appelle depuis la ville de Bukavu au site Kivu. Je présente mes condoléances à toutes ces familles qui ont perdu le leur. À mon avis, je pense que tous ces sinistres dans ma province du Sud Kivu seraient causés par les autorités politico-administratives qui laissent la population construire sur des sites jugés impropres à la construction. Personne ne peut construire quel que soit le site tant qu'une autorité urbaine n'est pas sur les chantiers. Les autorités prennent souvent des mesures tendant à lutter contre la construction anarchique, mais qui ne se matérialise pas. Comment une école qui fonctionne déjà peut être anarchiquement construite et causer parfois mort d'hommes pendant que les inspecteurs y passent chaque fois pour des contrôles divers? Quel est leur rôle?
Comment vous répondez?
Madame, comprenez que le mal est vraiment imminent. Et donc, je vais d'abord commencer à rectifier ce que le professeur vient de dire par rapport aux chiffres que nous avons proposés ici, que nous avons donné. les chiffres nous sont venus de...
Essayez de vous résumer. Hein,
oui, parce les chiffres nous sont venus de l'Institut national des statistiques. Et là, j'ai bien parlé de 2021. Nous sommes déjà en 2023. Et comprenez qu'il y a la croissance démographique élevée. Le taux de natalité est fortement élevé, non seulement au site Kivu, mais aussi en République démocratique du Congo. Je vais dire ceci, madame. L'exode rural décrié ici est en train de rencontrer aussi les taux de natalité élevés. Et quand ça se rencontre, comprenez qu'il y a une population, il y a une croissance rapide de la population. Et cette croissance rapide, quand la population est là, il cherche à manger, il cherche la survie. Il revient tel que, je remercie le ministre qui vient de parler, des sites déjà signalés, parce que c'est là que je devrais aussi citer, que on doit chercher dans le mesure du possible de désengorger le plus rapidement possible la ville de Bukavu. Sinon, le cas que nous allons subir, d'abord, le sol de la ville de Bukavu n'est pas un sol vraiment qui n'est pas sablonné. C'est boué. Et donc, quand on construit une maison, je ne sais pas les techniciens, ils voient comment, une maison plus fort, une maison en étage, sur un sol qui est en train de glisser, je ne vois pas que cette maison va s'y supporter. Et ça va partir. Et imaginez, si aujourd'hui nous sommes en 2023 et que nous sommes en train de subir ces cas, quand nous serons en 2030, ça sera comment? Et donc, il est impérativement demandé à toutes les autorités qu'ils prennent les mesures nécessaires.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de la proposition du professeur Liévin qui demande l'organisation des états généraux de la construction, mais aussi mettre à niveau les cadres juridiques et institutionnels? Ce sera votre conclusion.
Évidemment, c'est ce qu'il a dit, c'est bien. Et je veux ajouter que je dois, ce que j'ai noté ici, il doit y avoir deux solutions. À court terme, et à court terme, c'est ce que je veux dire, la réaction. Donc, la réorganisation le plus rapidement possible du service anti-incendie. À moyen terme, c'est ce que nous avons dit, les contrôles des constructions anarchiques. L'État vraiment ne peut pas dire que les gens ne l'écoutent pas. L'État doit faire tout pour que les gens écoutent. Et l'État est au-dessus de la population. Et à long terme, l'État doit construire des lotissements, doit proposer des lotissements à la population. Merci, madame.
Merci, Moïse Tshiza Tshisugi, chargé de relations publiques du Corps national des sapeurs-pompiers, Jérémy Bassimani, ministre provincial de l'urbanisme, habitat et affaires foncières. Qu'est-ce que vous vous proposez comme solution? Soyez vraiment concis, nous sommes à la fin de l'émission.
Madame, je vous ai déjà donné des propositions et fait que nous sommes en train de mener ou réaliser comme gouvernement provincial. Mais il y a un élément que je ne peux pas laisser passer. Il y a les gens qui veulent condamner l'État congolais sans approcher l'État pour en savoir plus, pour s'informer. Je prends les deux cas que l'intervenant venait de présenter, celui qui a parlé des immeubles qui s'étaient écroulés. Je prends deux éléments. L'immeuble qui s'était écroulé sur l'avenue de la résidence, ça, c'est un site propre. Le site n'est pas impropre. Le constructeur était passé au service. Il a reçu tous les documents nécessaires. Mais quel était le problème? Parce qu'on a publié les causes, mais je comprends que souvent les gens ne suivent pas. Le problème est lorsque le constructeur, le propriétaire de la parcelle était arrivé à la phase de finissage, il a entreposé des matériaux dans tous les niveaux, au rez-de-chaussée.
Monsieur le ministre, on n'a pas tout le temps pour que vous puissiez commencer à nous expliquer la préoccupation du prof.
Avec l'ingénieur,
la préoccupation du prof,
c'est la maison s'est écroulée.
Alors, la préoccupation, monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez m'écouter, s'il vous plaît? La préoccupation du prof, c'était que les enquêtes ne suivent pas après ce genre de sinistre. Voilà. Alors, est-ce que vous nous rassurez que chaque fois qu'il y a sinistre, il y a des enquêtes et les résultats sont connus, sont publiés?
Les enquêtes sont réalisées et les résultats sont publiés. J'étais en train de vous donner les deux cas pour qu'ils comprennent que l'État est en train de faire son travail.
Je crois que vous avez répondu. Je crois que vous avez répondu à sa préoccupation, mais il propose l'organisation des États généraux de la construction. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense que la construction est réglementée. C'est réglementé, mais nous continuons à déplorer les comportements de nos populations. Ça, je ne cesserai de vous le dire. C'est réglementé. Vous
merci.
Allez voir au lieu... Oui.
Merci, monsieur le ministre. Je suis désolé, on n'a plus beaucoup de temps. L'émission est... touche à sa fin. La réalisation me signale qu'on n'a plus beaucoup de temps. Professeur Liévin, en 30 secondes, hein, votre conclusion.
Merci beaucoup, madame. La difficulté que nous avons dans ce pays... c'est que ceux-là qui ont des responsabilités ne veulent même pas écouter les conseils qu'on leur donne. On leur donne des conseils, mais bon, ils cherchent à justifier ce que l'on ne peut pas justifier. En deux mots, madame, il y a des solutions à moyen, à court, à moyen et à long terme. À court terme, il faudrait déjà qu'on puisse intervenir lorsqu'il se pose un sinistre, c'est-à-dire voir comment aider les personnes en bien qui sont des vivres et des non-vivres.
Deuxièmement.
À court terme. À moyen terme, madame, j'ai parlé des états généraux de la construction.
Vous l'avez dit.
Il faudrait mettre sur pied. Et à long terme, il faudrait arriver à former les gens qui sont utilisés dans les services cadastre, urbanisme et habitat. Merci, madame.
Merci, professeur. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné dans la préparation de ce magazine. Guimaté, Donna Madimba, Clément Chimanga, Billy Landry Betou, présentation et coordination, Kéline Couté, bonne suite du programme sur la fréquence de la paix.